bien sûr, c'est au sujet de Poitès.
Nouveaux accords.
L'émission de découverte musicale à l'écoute des artistes locaux.
Sur Studio ZEF 91.1.
Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue dans Nouveaux Accords, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la découverte musicale qui vous dévoile chaque semaine un artiste ou un groupe de la région Centre. Je suis Gladys et voici Alexandre.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous recevons Olivier de Elephant, un projet solo qui est aussi un groupe. Il possède une voix envoûtante et maîtrise avec un art certain, sa guitare. Bonjour Olivier.
Salut.
Alors, comment te présenterais-tu, toi et ta musique ?
C'est toujours un peu compliqué de se présenter, présenter son travail, sa musique, mais surtout que c'est un petit peu en constante évolution. Je dirais qu'aujourd'hui, je fais de la musique folk qui va toucher à plein de choses. Un petit peu au rock, un petit peu à la chanson, un petit peu au blues. Et en fait, là, en ce moment, j'écris de plus en plus en français, tu vois. Donc, ouais, je la décrirais un peu comme ça.
Ok, ouais, ouais. Et en tout cas, tu utilises un instrument particulier sur lequel on peut te voir jouer dans les clips de musique. C'est quoi son nom ?
Ouais. Alors, on peut l'appeler de plusieurs façons. En fait, c'est une guitare slide qui est posée à plat sur les genoux et qui se joue vraiment que comme ça. Et ce modèle-là, en fait, c'est inspiré d'un modèle acoustique de luthier. Et le luthier s'appelait Monsieur Weissenborn. Et du coup, le modèle s'appelle Weissenborn. Donc à la base, c'est plutôt des guitares jouées dans la musique hawaïenne, mais en fait, on en fait un peu ce qu'on en veut. Et voilà.
Ok. Ouais, il paraît que c'est un instrument qui est quand même fait avec un bois d'une certaine qualité et qui vaut assez cher quand même.
Alors à la base, ouais, c'était fait en koa. C'est un bois qui est en voie de disparition, en fait. Donc ça fait quand même quelques années que les luthiers, ils travaillent plus trop avec ça. Mm-hmm. Donc, y en a un peu dans tous les bois maintenant, et le mien, j'ai oublié ce que c'était. Très
honnêtement. Mince.
Mais c'est le mien, c'est un luthier français qui l'a fait.
D'accord. Et du coup, oui, j'ai vu que t'apprenais à faire de la musique tout seul en autodidacte.
Ouais, j'ai appris beaucoup tout seul. J'ai eu quelques professeurs à certains moments pour débloquer des trucs. Mais en fait, j'ai beaucoup appris tout seul. Je me suis pas mal servi de YouTube, en fait. C'est con, mais il y a une petite application pour ralentir le temps, en fait, sur le lecteur, mm-hmm. YouTube. Et du coup, j'ai beaucoup regardé des lives de mecs que je kiffais et au ralenti. Et je mettais pause et je retapais les trucs, en fait, à l'oreille. Et puis, c'est un peu comme ça que que j'ai appris.
Ok. Bah, en tout cas, t'as bien appris, hein, parce que franchement, je trouve que tu maîtrises ça super bien et ça rend vraiment génial. C'est cool.
Cool. Merci.
De rien. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique ?
À la base, j'écoutais pas mal de musique parce que j'ai deux grandes sœurs qui elles-mêmes en ont pas mal écouté quand j'étais tout petit. Enfin, depuis que je suis tout petit. Et tu vois, j'ai repensé l'autre jour, en fait, quand j'avais 4-5 ans. J'écoutais Noir Désir et Nirvana à fond, quoi, parce que mes sœurs m'avaient un peu mise là-dedans. Et puis un jour, je suis tombé sur une guitare dans la chambre de ma sœur, et puis j'ai commencé à taper des trucs de Metallica, des Wiggles et tout, tu vois. Mm-hmm. Donc ça a un peu commencé comme ça, et puis je suis devenu fan de Ben Harper, John Butler, quand j'étais ado, et là j'ai commencé un petit peu à regarder ce qu'ils faisaient, quoi, comment ils jouaient.
Ok. Et du coup, comment étaient les débuts ?
Tu veux dire au tout début que j'ai commencé à jouer seul dans ma chambre,
ouais.
Ou quand j'ai commencé à jouer devant des gens
Quand t'as commencé à jouer devant des gens ?
Ah bah, c'est comme beaucoup de gens, j'étais tout seul, je jouais en rentrant des cours le soir en fait, plutôt que de réviser parce que ça me saoulait. Et du coup, bah, j'essayais de me trouver une excuse pour pas travailler les cours. Du coup, j'avais besoin d'occuper mes mains et de faire quelque chose. Et je faisais de la musique, quoi.
Ok.
Ça va, vous m'entendez ?
Oui. Alors, donc c'est un peu tes grandes sœurs qui t'ont inspiré à jouer de la musique ?
Bah, elles m'ont fait écouter des trucs quand j'étais petit. Parce que tu sais, après Noir Désir et Nirvana, elles sont passées sur des trucs vraiment nazes, genre les boys bands, tu vois. Donc ça m'a moins inspiré, tu vois.
Oui, bah c'est sûr. Oh mince. Ils avaient tellement bien commencé. Est-ce que t'as une anecdote de scène ?
Ah, j'en ai plein. En fait, je me souviens surtout de peut-être le meilleur moment pour moi. En fait, j'ai participé à une espèce d'expérience anarchiste où en fait pendant 3 jours on était 60 personnes dans un terrain et on s'est appris des trucs, tu vois, chacun avait des choses à apprendre, des outils à maîtriser, et on s'est appris plein de choses les uns les autres, on a mangé tous ensemble, on s'est fait à manger et tout, et le soir il y avait des concerts et on m'a proposé de jouer, Et donc j'ai joué en solo devant ces gens que j'avais commencé à apprendre à connaître pendant ces 3 jours-là. Et en fait, il y avait un espèce d'ambiance incroyable parce que tout le monde commençait à se connaître et puis une écoute folle. Les gens, quand j'ouvrais les yeux pour regarder les gens ils avaient tous les yeux fermés, ils étaient assis, il n'y avait pas un bruit et à la fin ils m'ont renvoyé quelque chose d'assez phénoménal humainement quoi. C'était vraiment l'un des plus beaux concerts de ma vie, je crois.
Ah ouais.
T'étais dans une communauté Anar.
C'était un truc temporaire, si tu veux, pendant 3 jours. Je dis anarchiste, mais je sais pas si c'est le terme, mais disons que on s'auto apprend des choses, on s'autonomise entre nous, on est là pour nous et pour s'apprendre des choses et on dort sur place pendant 3 jours, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose de il y a aucune institution, il y a rien quoi. On se démerde, on fait ce qu'on veut et c'est pour ça que je dis anar.
Ça a l'air passionnant.
Et du coup, depuis cet épisode, quel effet la scène te procure-t-elle ?
Eh ben, ça dépend vraiment, parce que il y a des lieux vraiment qui sont pas des lieux d'écoute en fait, et ça peut vraiment parfois être difficile. Surtout que là, je fais de plus en plus de la chanson, je me penche de plus en plus sur les textes, et du coup, j'ai un petit peu à cœur à ce que ces textes soient écoutés. Donc, quand je suis dans des lieux qui sont pas des lieux d'écoute, ça peut être le cas de certains bars notamment, ça peut être vraiment difficile. Mais par contre, à l'inverse, les lieux où l'accueil en fait est, en fait les lieux qui ont vraiment envie que tu sois là, et ben ça se passe super. Et quand tu sens que les gens t'écoutent et puis qu'ils te renvoient un peu d'amour, c'est vraiment, tu sais, trop bien quoi.
Ouais, c'est sûr. Et du coup, parle-nous de ce projet et de ton groupe. D'où vient Elephant?
Il y a 4 ans, je bossais, j'étais ingénieur et j'en avais marre pour plein de raisons. Et j'ai mon vieux copain Clément qui est bassiste qui m'a dit écoute Olivier, t'as ton projet là qui a l'air vraiment cool. Moi j'ai envie de jouer avec toi et j'ai trouvé d'autres gens qui seraient peut-être motivés pour jouer. Reviens à Tours et puis vu que t'en as marre de ton taf, et puis vas-y, on lance quelque chose. Tu vois, il m'a un peu motivé. On s'est vu au jour de l'an, je sais plus quand, et il m'a un peu donné l'envie quoi. Et puis ça s'est lancé comme ça. Donc je suis arrivé avec mes morceaux, quelques reprises au début, et on a monté ça à 4 puis à 3 en trio avec basse et batterie donc. Et puis moi, ça m'empêche pas de jouer en solo quand le lieu peut pas accueillir en fait plus qu'un solo.
D'accord. Et d'où vient ce nom Elephant?
Ah, ça c'est un vieux trip entre potes en fait. C'est un vieux trip qui est resté en fait. Un vieux délire. On avait monté un groupe il y a 10 ans avec Clément justement dont je parlais à l'instant et Ben de Chevalienne. C'était un trio à l'époque et du coup ce nom-là est resté avec le temps.
Ok. Ah, franchement, j'aime bien parce que c'est pas un nom commun de 1 et de 2, l'écriture, ça le sort quand même de la banalité de éléphant. Du coup, c'est bien, c'est Elephant, je trouve. C'est...
Bah, si tu veux, l'idée à la base, c'était vraiment. Moi, je me découvre musicalement encore aujourd'hui. Je me cherche encore un peu, tu vois. Et j'avais envie d'un nom qui soit pas connoté, en fait.
Oui, oui.
Parce qu'il y a une époque où je faisais un peu de blues. Et du coup, il y a des gens, ils croient que je fais que du blues, tu vois. Et si j'avais eu un nom typique du blues, j'en sais rien, tu vois. Genre Slim Paul ou alors Olivier and the Trucmuche. Et ben en fait j'aurais été bloqué dans ce truc de blues toute ma vie et c'était pas du tout le plan dès le début. Je me suis dit, je savais que ça allait bouger et là en ce moment précisément c'est en train de bouger beaucoup, donc ça me permet d'avoir un nom, en tout cas j'ai l'impression, qui est pas trop connoté, tu vois, musicalement.
Bah c'est bien.
Je pense que t'aurais dû garder Olivier et les trucs muches. Je trouve que ça sonne bien.
Bah tu vois, à un moment donné mes potes ils voulaient qu'on s'appelle Elephant and the Mother Lovers. Enfin bon, c'était plutôt un trip, mais non, en fait. On va garder les
autres. Oui, bah oui. Ok. Eh bien, tout de suite, une pause musicale et on écoute un morceau de notre invité qui s'intitule Sundown. De retour après ce morceau apaisant et envoûtant. Parle-nous de ce morceau, du coup, Olivier.
Ça commence à être un vieux morceau pour moi. Mais à l'époque, je m'étais fait larguer comme une merde du jour au lendemain. Oh. Et le lendemain, j'étais un peu triste et en colère en même temps. Donc j'ai écrit ça et à la base, je voulais écrire des paroles, mais je me suis dit non. On va éviter de dire des conneries, quoi, parce que j'étais trop en colère.
Oui.
Donc j'ai fait la musique et puis c'est tout, quoi.
Bah, c'est drôle quand même parce que je trouve cette musique tellement apaisante et donne envie de voyager. C'est envoûtant. Enfin, je sais pas. J'aurais vraiment pas pensé à ça.
Ouais, bah du coup moi ça m'a fait penser à un soleil couchant.
Ouais.
Juste après, tu vois, quand je l'ai écrit, et du coup je me suis dit que j'allais l'appeler Soleil couchant.
Ouais. sur une touche un peu plus.
Guillerette.
Non, moins Guillerette, justement. Ah. Parce que t'as appelé ton EP Burial. Pourquoi?
Ouais.
C'est l'enterrement de qui? De quoi?
En fait, c'est des enterrements, c'est burials.
Ah oui.
Et à l'époque, si tu veux, ça correspondait pour moi à la fin de plein de choses dans ma vie, en fait. Que ce soit, j'ai quitté mon boulot, j'ai perdu ma mère, j'ai changé de vie, tu vois, j'ai vraiment renoncé à plein de choses et j'ai dû accepter plein de choses, plein de fins de trucs. Donc si tu veux, c'était et puis comme les morceaux, ils parlent tous un peu de ça, tu vois, même le morceau instrumental au final, il parle de ma rupture avec une nana que je surkiffais et du coup, je trouvais que c'était très cohérent d'appeler cette EP des enterrements, tu vois. Mais c'est cool, t'inquiète, ça va.
Ok, mais tu le vois comme un, juste comme un enterrement ou un enterrement pour une nouvelle vie, pour débuter une nouvelle vie?
Bah oui, si tu veux, moi je continue de vivre et tu sais, j'appelle ça des enterrements parce que t'essaies d'accepter, enfin tu vois, il y a une part d'acceptation aussi de quelque chose que tu peux pas maîtriser, qui t'appartient pas et qu'il faut quand même continuer à aller d'avant, tu vois. C'est pas mon enterrement en fait.
Ok, ouais. Et est-ce que la musique a pu être curative pour toi?
Ouais. Ça l'est et je m'en rends compte aujourd'hui naïvement parce que je découvre un peu moins de musique ces temps-ci et en fait quand je tombe sur un morceau que je kiffe vraiment, je me rappelle cette sensation en fait de plaisir et qui fait du bien quoi. Et je m'en rappelle un peu naïvement en ce moment parce que j'écoute un peu moins de musique là, mais c'est toujours vrai.
Ok. Et quel est ton lieu d'inspiration favori?
Pardon, mon lieu?
Oui, ton lieu d'inspiration favori.
J'en ai pas. Je travaille chez moi en fait.
Ok.
Donc c'est chez toi.
C'est ouais. C'est plutôt en fait non, mais c'est une bonne question. En fait, c'est besoin d'un cocon, d'un vrai cocon de sécurité où on est seul en fait et où on coupe le portable et où on sait que il va pas y avoir quelqu'un qui va venir pour poser une question ou couper le process de d'écriture quoi. Donc en fait, c'est plutôt un sanctuaire personnel, un lieu où on peut vraiment savoir qu'il y a aucun problème et que tout va bien et qu'on est seul.
Ok. Est-ce que tu as quelques mots pour nos auditeurs, pour tes futurs projets?
Eh ben là, les projets, si tu veux, ils sont vraiment, c'est vraiment très compliqué de se projeter. D'une part parce qu'il y a le Covid et que les décisions gouvernementales font que il y a plus de concerts du tout. Donc c'est vraiment dur de se projeter. Déjà en temps normal économiquement c'est très compliqué. C'est un milieu qui est très compétitif mine de rien. Il y a beaucoup de gens qui font de la musique et toi t'es invisible en fait. Donc déjà en temps normal pour sortir un peu du lot c'est compliqué. Mais là il y a même plus de concerts quoi. Donc assez peu de gratification que ce soit humaine ou économique. Et en plus le groupe est en plein changement. Si tu veux, il se passe plein de choses qui sont pas tout à fait. On n'a pas encore réglé tous les problèmes, mais il y a du changement et du coup c'est difficile là de se projeter. Mais par contre moi, en ce qui me concerne, j'ai quand même envie là de d'enregistrer un EP parce que j'ai des nouveaux morceaux et j'ai envie de les défendre. J'aurais envie de les défendre à un moment donné quoi.
Ouais, oui.
Okay. Et en espérant qu'il y ait des concerts. Alors. En espérant qu'il y ait des concerts à l'avenir, prochainement, j'espère bientôt.
Ok. Eh bien, maintenant, nous allons enchaîner sur un dernier morceau de Elephant qui s'appelle Dancing to My Burial.
Haven't you running, keep on running, keep on running around. While I am preparing myself to die. Keep on running, keep on running, keep on running around. While I am preparing myself to die.
Merci d'avoir été avec nous, Olivier, pour répondre à nos questions.
Eh ben, merci à vous.
Nous allons enchaîner avec notre chronique Musique Info. Si tu veux, tu peux rester pour l'écouter.
Yes, ok.
Eh bien, à toi, Alexandre.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler jeux vidéo, ou plutôt de la musique dans les jeux vidéo. C'est un vaste sujet, donc je vais séparer cette chronique en plusieurs épisodes. Dans celui-là, nous parlerons de l'origine de ce genre de musique, la musique 8 bits. Si le 8 bits existe en théorie depuis que les ordinateurs sont capables de générer des sons, leur âge d'or correspond à la période allant du milieu des années 80 au début des années 90, quand les puces audio étaient le moyen le plus courant pour produire de la musique sur des ordinateurs. Les capacités sonores de ces puces étaient assez limitées et les notes générées ont une sonorité artificielle caractéristique même pour une oreille non habituée. Alors comment ça marche ? Un processeur peut être classé sur la base de données auxquelles il peut accéder en une opération unique. Un processeur 8 bits peut accéder à 8 bits de données en une seule opération. La console Atari 2600, par exemple, était capable de générer seulement deux tonalités simultanées. Quelques exceptions, comme les jeux d'arcade développés par Excidi, anticipèrent l'utilisation de sons numérisés ou échantillonnés. On en reparlera plus tard. La fin des années 80 a vu la création d'un grand nombre de programmes destinés à ces plateformes, dont la musique était composée par des personnes ayant une plus grande expérience musicale que précédemment. La qualité des compositions en fut notamment améliorée, et la prise de conscience à cette époque de l'importance de la musique se ressent toujours aujourd'hui. Les compositeurs suivants se sont fait un nom dans le domaine. Koji Kondo, avec Super Mario Bros. Et The Legend of Zelda. Koichi Sugiyama, pour Dragon Quest. Hirokazu Tanaka, pour Metroid. Nabuo Uematsu pour Final Fantasy et Junichi Masuda pour Pokémon. Je vous ai donc fait une sélection des musiques 8-bit les plus connues, produites notamment par les compositeurs cités précédemment. Nous allons donc écouter ça tout de suite. Voilà. Alors Olivier, j'ai une dernière musique à te faire écouter. Est-ce que tu sauras la reconnaître?
Ouais. Vas-y, ouais.
Alors, est-ce que tu as réussi à reconnaître la musique?
Ah, c'est marrant que vous diffusiez ça, parce que moi, je suis un énorme fan de Nobuo Uematsu. C'est l'un des mecs qui m'a donné envie de faire de la musique, en fait.
Ouais,
donc, c'était la musique de FF7.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que du coup, j'ai lu quelque part que du coup, il t'avait inspiré. Et du coup, je voulais savoir, je voulais tester un peu tes connaissances du monsieur.
Ah ouais, je me demande bien où est-ce que tu as lu ça, c'est drôle.
C'est qu'on a fait une recherche, quand même.
Et
attends.
Oui.
Ouais, bah vous êtes bien informé.
Et oui, parce qu'il s'agit de la mort la plus marquante du jeu vidéo, car c'est la première fois qu'une personne importante jouée par le joueur meurt. C'est un personnage auquel on a eu le temps de s'attacher, et sa mort est d'autant plus douloureuse. Il s'agit notamment de la mort d'Iris. Et oui.
Et ouais.
Et oui.
Cette musique, elle
les premières larmes, les premières larmes que j'ai versées devant un jeu vidéo. Et ouais. Comme quoi, les jeux vidéo ne servent pas seulement à s'amuser, mais aussi à s'émouvoir.
Ben, tu vois, j'ai jamais joué à Final Fantasy VII, j'ai jamais vu la scène de la mort d'Iris, mais juste la musique, elle est poignante, ça me tue.
Carrément, ouais.
Eh bien, en tout cas, merci de votre écoute, et merci Olivier d'avoir participé à notre chronique.
Et ben, je t'en prie, merci de m'avoir invité.
C'est avec plaisir. Et chers auditeurs, vous pouvez retrouver cet artiste dans notre playlist ou sur YouTube. Et est-ce qu'on peut te trouver sur d'autres réseaux sociaux?
Sur les réseaux sociaux, ouais, bah sur Facebook, Instagram, après il y a Spotify, Deezer, YouTube,
Bandcamp,
tout ça.
SoundCloud.
Bandcamp, ouais, carrément.
Yes, et du coup, on a juste à taper Elephant pour te trouver.
Ouais, c'est ça, okay. E-L-E-F-E-N-T, et sur Bandcamp, on peut acheter mon EP directement. Et c'est moi qui vous l'envoie.
Ah
hey, petit plus-value.
Donc faut pas hésiter.
Eh oui. Alors je vous rappelle aussi que vous pouvez aller sur studiozef.fr pour écouter ou réécouter notre émission, ainsi que le reste de la programmation. Et envoyez-nous vos suggestions d'artistes de la région à l'adresse mail suivante, musique@studiozef.fr. Je répète, musique@studiozef.fr ou sur notre Instagram, studiozef91,1.
C'était Alex et Gladys et on se dit à la prochaine pour de nouveaux accords.
Bien sûr, c'est au sujet de Poitès.
Nouveaux accords.
L'émission de découverte musicale à l'écoute des artistes locaux.
Sur Studio Zef 91.1.